aujourd'hui, je voudrais faire un sermon très pratique. Et je crois qu'il le sera. Et les principes qu'il contient sont certainement pratiques dans ma vie. Et je suppose que ma vie n'est pas si différente de la vôtre. Et qui pourront aussi vous aider. Je vais vous parler du fait d'être offensé. Vous savez, les offenses vont arriver, n'est-ce pas? C'est ce que la Bible nous dit. À moins que vous ne soyez pas un être humain. Si quelqu'un ici n'est pas un humain, s'il vous plaît, levez la main. Je ne vois pas de main qui se lève. C'est bien. À moins que vous ne soyez pas un être humain, ce n'est qu'une question de temps avant que vous soyez offensé par quelque chose. C'est peut-être une offense imaginaire. C'est peut-être une situation où vous ne devriez pas être offensé. Il peut s'agir d'une chose pour laquelle vous avez tout à fait le droit d'être offensé. En fait, c'est peut-être quelque chose où vous n'êtes pas assez offensé. Il se peut que vous ne rendiez pas compte à quel point cette personne s'est moquée de vous, ne vous aime pas ou essaie de communiquer quelque chose d'injuste, d'inapproprié ou de terrible à votre sujet. Mais les offenses font partie de la vie. En fait, nous vivons à une époque où se sentir offensé semble être le passe-temps favori de tous. On dirait que tout le monde va à l'université pour obtenir son diplôme sur la façon d'être offensé. Et dans les différentes spécialisations de l'offense, tous semblent vouloir être offensés. Et frères et sœurs, il serait insensé de penser que cela ne déteint pas sur nous. Si quelqu'un pense que nous marchons dans ce monde sans être souillés et que rien ne nous touche, rien ne nous corrompt, comme de l'eau sur le dos d'un canard, nous ne sommes pas réalistes. Ce n'est pas non plus ce que dit la Bible. Elle nous met en garde contre le fait d'adopter les attitudes du monde, et l'offense est problématique ou est problématique pour le corps du Christ qui cherche à être uni comme le Christ et le Père le sont. Vous savez, le livre des Proverbes est rempli de sagesse. Et Proverbes 18, verset 19 nous dit qu'un frère offensé est plus difficile à aborder qu'une forteresse. Les disputes sont aussi tenaces que les verrous d'un château. Et lorsque quelqu'un est vraiment offensé par quelque chose que vous avez fait, ou lorsque vous êtes offensé par quelque chose que quelqu'un vous a fait, c'est un véritable coup dur pour l'unité, un poids supplémentaire pour l'amour fraternel, et une vraie difficulté à surmonter. Dans un podcast que M. Robinson et moi-même avons publié pour nos jeunes sur le site livingyouth.org et sur Spotify, parlions de comment Dieu dit qu'il déteste le divorce. Un point que nous avons adressé est que chaque fois que le divorce est une option dans la société, les couples ne se pressent pas nécessairement de surmonter tous les obstacles qu'ils auraient pu normalement franchir ou qu'ils auraient normalement franchi s'ils avaient compris qu'ils étaient dans un mariage pour la vie. Mais quand il s'agit de nos conjoints, les offenses arrivent aussi. Mais nous allons de l'avant, nous essayons de les surmonter, de continuer à construire une relation parce que nous sommes mariés. Mais qu'en est-il de nos frères et sœurs en Christ? Nous ne vivons pas avec eux 24 heures sur 24. Il est très facile de faire autre chose avec cette offense sans nécessairement la surmonter comme nous devrions. C'est un poison pour le corps du Christ. Nous ne pouvons pas faire ce que nous devons faire si nous ne faisons pas face aux offenses. Et c'est absolument certain qu'elles viendront. Alors, ce n'est pas sain pour le corps de Christ. Nous devons être outillés. Les outils pour gérer les offenses sont vitaux pour nous. Et vous savez, Batman avait une ceinture utilitaire, non? Il avait un outil pour tout. Quand je pense à Batman, je n'ai pas tendance à penser au film récent. Je pense à la série des années 60. C'était assez médiocre et très ringard, mais Batman avait tout sur sa ceinture utilitaire. Je me souviens de ses films en particulier. Et je n'étais pas né lorsqu'ils ont paru, mais je les ai vus plus tard. Mais j'ai vu souvent de Batman joué par Adam West, pas Adam West notre ministre, un Adam West différent. Et on le hissait dans un hélicoptère, il y avait un requin sur sa jambe. Et bien sûr, il sortit de sa ceinture utilitaire un aérosol anti-requin, et le requin le lâcha. Une ceinture utilitaire qui aurait une solution à tout serait génial. Et en fait, le fait que Christ nous donne des outils, et il nous donne des outils pour gérer les offenses. Quand l'offense nous ronge, quand quelque chose s'interpose entre nous et notre frère parce que nous avons été offensés, Dieu nous donne des outils à utiliser. Et pour le sermon d'aujourd'hui, j'aimerais donc passer en revue une liste de ces outils. Cette liste n'est peut-être pas exhaustive, vous pourriez peut-être en trouver d'autres, mais ceux-ci sont clairement utiles. Ils nous aident et ils fonctionnent. J'aimerais donc vous parler des différents outils que nous pouvons utiliser pour gérer l'offense lorsque nous sommes offensés. Parce que si vous n'avez jamais été offensé, c'est seulement une question de temps. Et le titre de mon sermon aujourd'hui est « Je suis offensé ». Et la manière que vous pouvez écrire, c'est avec un point d'exclamation. « Je suis offensé ». Point d'exclamation. Donc, d'accord, vous êtes offensé, donc que faites-vous à ce sujet? Et c'est ce que nous parlerons durant le sermon. Plantons d'abord le décor. Donc, lorsque l'offense survient, de quoi Dieu se préoccupe-t-il? Que veut-il en retirer? J'aimerais souligner une chose importante. Reportez-vous à Matthieu 18. Reportez-vous à Matthieu 18. Il vaut aussi la peine de parler de la manière de ne pas être offensant, et c'est quelque chose que beaucoup d'entre nous pourraient améliorer. Personnellement, j'ai dû travailler à ne pas être inutilement offensant, et j'ai certainement encore du travail à faire. Mais j'aimerais parler du fait que l'offense est inévitable, parce que ce n'est pas quelque chose que vous pouvez toujours contrôler de la même manière. Vous pouvez contrôler si vous êtes offensant ou non, vous pouvez baisser le ton, mais lorsque nous sommes celui qui reçoit l'offense, que pouvons-nous faire? Il est important de s'en occuper, et Dieu a un certain objectif en tête lorsqu'une offense a lieu. Cela ne signifie pas que ce soit toujours possible, vous savez. Dieu ne veut pas que personne périsse. Et pourtant, nous savons que certains choisiront de périr. Et le processus n'est pas toujours possible. Mais cela reflète quand même la pensée de Dieu et ce qui est important pour lui. Dans Matthieu 18, verset 15, « Si ton frère a péché contre toi, va et reprends-le seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. » Et nous parlerons du reste de Matthieu 18 plus tard dans le sermon. Mais pour l'instant, il y a une raison pour laquelle je ne veux pas le faire maintenant. Et j'aimerais mettre en évidence quelques différents outils. Mais remarquez premièrement ce que Dieu désire. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Dieu n'aime pas qu'une partie du corps ait une telle friction contre une autre partie du corps. Et vous savez, lorsqu'une partie de notre corps ne veut pas vraiment faire affaire avec le reste du corps, nous pensons souvent à cela comme un cancer. Il s'agit d'une partie du corps qui ne veut pas être où elle doit être. Et c'est malsain pour le restant du corps. Là où elle se trouve, elle cause des dommages, elle fait du mal. Donc Dieu ne veut pas que ces parties du corps qui ne sont pas d'accord entre elles, qui ne peuvent pas être les unes avec les autres. Ce que Dieu veut, c'est que nous gagnions notre frère. C'est important pour lui. À quel point c'est important? Un petit peu plus loin dans Matthieu 5, verset 23. Matthieu 5, verset 23, nous lisons une déclaration du Sermon sur la montagne. Matthieu 5, verset 23. Et Jésus-Christ dit à son auditoire ici dans Matthieu 5, verset 23 et 24, « Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel, et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. » Il ne dit pas « n'offre pas ton offrande », il dit « faites ce que vous devez faire », mais en même temps, reconnaissez que si votre frère a quelque chose contre vous, cela peut avoir un grand impact sur votre relation avec Dieu. Le Dieu qui vous aime, il est le Dieu qui aime votre frère. Et si vous êtes un parent, à quel point est-ce que c'est un fardeau difficile pour vous lorsque vos enfants ne s'entendent pas? C'est difficile, n'est-ce pas? C'est un fardeau. Cela prend une partie de votre temps précieux dont vous avez besoin pour faire de nombreuses autres choses. Vous vous investissez pour qu'ils ne se contentent pas de survivre l'un à l'autre. Vous comptez sur eux pour avoir ce lien fraternel plus tard dans la vie, parce que vous ne serez pas toujours là, et vous voulez qu'ils voient leurs frères et leurs sœurs comme des gens vers qui ils peuvent aller, des gens sur qui ils peuvent compter, et Dieu se soucie de cela. Et ce passage m'a personnellement corrigé par le fait que il ne dit pas que vous savez que c'est sa faute ou que c'est votre faute. Avez-vous fait un effort pour vraiment régler la situation? Encore une fois, le succès n'est pas garanti. Vous pouvez essayer de vous réconcilier avec votre frère, et votre frère vous crache au visage, vous rejette, vous arrache votre cadeau des mains. Il n'y a aucune garantie, mais nous avons essayé. Pouvons-nous aller devant Dieu honnêtement et dire, « Dieu, en me présentant devant toi avec cette prière, je peux dire dans mon cœur que j'ai cherché à me réconcilier avec mon frère. Je l'ai contacté sur Facebook. Je lui ai téléphoné. Je lui ai envoyé une carte. » Nous avons essayé. Dieu ne nous blâmera pas pour des choses que nous ne contrôlons pas. Mais il nous blâmera si nous ne faisons pas les efforts nécessaires ou si nous ne mettons pas en pratique ce qu'il nous demande. Et c'est important pour Dieu. Il ne veut pas que son corps soit en désordre. Il ne veut pas que les gens se forcent à s'asseoir dans une même pièce alors que leur cœur est repoussé par la présence d'une autre personne et préférer se retrouver ailleurs. Dieu veut que nous soyons capables de nous réconcilier avec notre frère si cela est possible. Donc, gardez cela à l'esprit en parcourant cette liste que la réconciliation est l'objectif de Dieu, pas nécessairement une punition, pas nécessairement une justification aux yeux des autres. Le but de Dieu est de nous réconcilier les uns avec les autres, si possible, mais aussi de nous réconcilier avec lui en ce qui concerne les pierres d'achoppement spirituel que cette offense a pu causer. Et un peu plus tard, nous en discuterons de cela. Avant de parler de ce que nous pouvons faire, parlons de ce qu'il ne faut pas faire, parce qu'il y a des outils que nous empressons habituellement d'utiliser. Parlons de ce que nous ne devons pas faire lorsque nous sommes offensés. Premièrement, nous ne devrions pas faire de commérage ou de colporter notre histoire. Il s'agit là d'un sujet en soi sur lequel je ne passerai pas beaucoup de temps ici. Mais laissez-moi vous dire que je ne parle pas seulement de fausses histoires. Parfois, les gens partagent une histoire et se sentent justifiés de le faire parce qu'ils savent que c'est vrai, parce qu'ils étaient là, parce qu'ils l'ont vécu. Et je ne raconte pas de ragots, mais c'est réellement arrivé. En fait, reportons-nous à Apocalypse chapitre 12. Et certains d'entre vous savent peut-être où je veux en venir ici. Mais si nous savons ces choses, Dieu nous tient responsables de les mettre en application. Et dans Apocalypse 12, versets 9 et 10, nous lisons une description vitale de Satan le diable. Apocalypse 12, versets 9 et 10. Il dit, « Il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan. » Apocalypse 12, versets 9 et 10. Celui qui séduit toute la terre, et il fut précipité sur la terre, et ses gens furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. » Laissez-moi vous demander une question. Ceci décrit le diable comme accusant chacun de nous devant Dieu. Laissez-moi vous demander une question. Ne fait-il qu'inventer des faussetés à notre sujet? Notre attitude est-elle si pure? Nos courriels sont-ils si angéliquement justes? Nos conversations font-elles si pures que nous ne donnons aucun matériel au diable pour nous accuser? Honnêtement, si j'étais le diable, je ne pense pas l'être, je vérifierai mon permis de conduire plus tard, mais c'est en fait le genre de question que j'amènerais devant Dieu. Dieu, as-tu vu la façon dont il a parlé à sa femme ce matin au petit déjeuner? Je suis désolé, je pensais que ton peuple comprenait que le mariage est une image du Christ et de l'Église. Es-tu en train de me dire que c'est comme ça que le Christ a l'intention de parler à son épouse? As-tu déjà vu l'attitude de cette personne à transmise à son collègue dans son courriel? Dieu était, est-ce vraiment ce que tu veux avoir dans ton royaume pour toujours? Parce qu'il semble que de nombreux courriels de cet enfant qui est le tien soient sur le même ton. Donc, laissez-moi vous dire que, personnellement, j'ai remarqué qu'au cours de ma vie, je donne plus qu'assez de matériel réel et précis au diable. Et je connais certains d'entre vous bien pour savoir que c'est aussi votre cas. Et nous ne sommes pas parfaits, et le diable n'a pas besoin d'aller voir Dieu en s'accusant au sujet de faits inventés. Mais ceci dit, et voici pourquoi je veux faire cette remarque sur le fait de commérer des histoires, pendant que Dieu attend le diable faire des accusations contre les gens pour lesquels le Christ est mort, voulons-nous vraiment que Dieu regarde par-dessus l'épaule du diable? Il nous voit faire exactement la même chose. Voulons-nous vraiment que Dieu regarde par-dessus l'épaule du diable? Il nous voit faire exactement la même chose. Je ne le souhaite pas. J'ai certainement fait des erreurs dans le passé et je suis sûr que j'en ai fait. Mais nous ne voulons pas cela. Une chose que nous ne pouvons pas faire quand nous sommes offensés, c'est d'aller t'excuser simplement parce que c'est vraiment arrivé. Cela ne donne pas la permission de colporter ailleurs. Une autre chose que nous ne voulons pas faire, contre laquelle nous voulons être sur nos gardes, c'est de devenir amer. Et l'apôtre Paul lance un appel à chacun d'entre nous dans Hébreux 12, versets 14 et 15. Hébreux 12, versets 14 et 15, où l'apôtre Paul nous dit « Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, et ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble, et que plusieurs n'en soient infectés. » Il souligne avec justesse que nous devons veiller. L'amertume enfonce sa racine si subtilement et rapidement, et elle pousse si vite. Il faut s'examiner attentivement et se demander, est-ce que je deviens amer à ce sujet? Est-ce que cela m'affecte beaucoup plus que je ne le pense? Si c'est le cas, cela signifie peut-être que je me prive de la grâce de Dieu. Ceux qui réalisent être eux-mêmes bénéficiaires de la grâce ne peuvent s'empêcher de l'étendre aux autres. Comment ne pas faire? Lorsque quelqu'un se voit être bénéficiaire à part entière de générosité, vous savez sûrement, de par votre propre expérience, que cela vous inspire le désir d'être généreux à votre tour. Il en va de même pour la grâce. Lorsque vous comprenez que vous êtes une personne imparfaite qui ne mérite pas la grâce que Dieu vous lui a accordée en Jésus-Christ, et cela arrive plus souvent à mesure que l'on mature, vous ne pouvez pas vous empêcher de vouloir être plus miséricordieux et d'avoir plus de ce fruit de l'Esprit qui agit en vous. En fait, en regardant attentivement ce moment où une offense vous est faite, que ce soit l'offense d'un ami, d'un membre de la famille, d'un ministre, d'une lettre de l'Église, l'offense d'un parent, l'offense d'un enfant, c'est le moment où l'amertume est là, prête à commencer à creuser le sol de votre vie et à se transformer en quelque chose de terrible. Nous sommes avertis de faire attention. De faire attention. Puis, finalement, une autre chose à ne pas faire. Nous ne verrons pas d'autres versets à ce sujet, bien qu'il y en ait. Une autre manière de répondre à l'offense qu'il nous faut éviter, c'est d'agir avec malice. Qu'est-ce que cela signifie? Comment comprendre la malice? Parfois, quand vous recevez un courriel désagréable, quel est votre premier réflexe? D'en écrire un sur le même ton en retour. Quand quelqu'un a parsemé son message de commentaires qui vise à baisser, à montrer un manque de respect ou à vous remettre à votre place selon sa perspective, n'est-il pas tentant de faire la même chose? La malice est un mauvais instinct qui nous pousse à vouloir riposter quand nous avons été frappés. Nous avons été blessés, nous voulons blesser en retour. C'est la malice. Et nous en parlons souvent pendant les jours des pains sans levain, car nous devons nous débarrasser du levain de la malice et de la méchanceté. Et ce désir de blesser en retour grandit dans notre vie. Et nous voyons aussi cela dans le monde animal. Un animal qui se sent attaqué et menacé cherche à montrer les dents et à riposter. Mais Dieu s'attend de nous que nous croissions au-delà de ce réflexe de base. Je suis marié depuis 30 ans, et si vous avez été marié pendant une bonne période et que votre conjoint ne vous ait jamais blessé et que vous n'avez jamais ressenti la moindre tentation de dire quelque chose d'un peu vif en retour, peut-être que vous minimisez la réalité parce que vous êtes une personne vraiment gentille. Si vous n'avez jamais été ainsi tenté, alors je dois savoir qu'est-ce que vous mangez, qu'est-ce que vous buvez, qu'est-ce que vous savez, qu'y a-t-il en vous qui vous donne d'être capable de résister à une telle chose? Et j'ose espérer que l'Esprit de Dieu est en vous et vous en êtes venu dans votre mariage avec le temps à résister à ces choses. Bien que la malice nous vienne très naturellement, c'est quelque chose que Dieu interdit. Quand il s'agit de répondre à une offense, nous ne devons pas répondre malicieusement. Donc très bien. Maintenant que nous avons vu ce que nous ne devons pas faire, passons le restant du temps à parler des outils que nous avons. Bon, disons que j'ai été offensé, j'ai une offense entre les mains. Elle est juste là, je dois donc régler la situation. Je ne peux pas simplement la cajoler, la soigner, ou essayer de la rendre plus furieuse. Je dois faire quelque chose avec l'offense, mais que faire avec? La première action que vous pouvez entreprendre, le premier outil que vous pouvez utiliser contre l'offense, et cela vous semblera brillant quand vous l'entendrez. La première chose que vous pouvez essayer, croyez-le ou non, aussi ridicule que cela puisse paraître, mais cela fonctionne parfois, c'est de ne pas être offensé. Vous pouvez simplement ne pas être offensé. Vous savez, l'une des choses que je remarque lorsque je vais sur Twitter, et c'est le nombre incroyable de personnes qui sont offensées et qui n'ont pourtant pas besoin de l'être. Elles auraient pu simplement pas tweeter ce jour-là. Elles n'avaient pas besoin d'aller en ligne, de répondre à quelque chose et de s'indigner à ce sujet. En fait, vous pouvez simplement ne pas être offensé. Cela semble ridicule, mais c'est l'une des options les plus négligées. Regardez le psaume 119. Et je ne veux pas dire que la lecture de ce psaume soit un tour de passe-passe, et je vais l'expliquer. Et je pense qu'il s'applique. Le psaume 119, verset 165. Psaume 119, verset 165. Et il dit, dans la Bible en français courant ici, psaume 119, verset 165, il dit, « Il y a une paix abondante pour ceux qui aiment ta loi, et aucun obstacle ne les fait trébucher. » Rien n'est une pierre d'achoppement pour eux. Laissez-moi expliquer le lien, car il est parfois exagéré. Dans l'ancienne version biblique du roi Jacques, le psaume 119, verset 165 dit « Une grande paix ont ceux qui aiment ta loi, et rien ne peut les offenser. » Eh bien, cela ne parle pas seulement d'offense. Et je veux m'assurer que je suis transparent à ce sujet. L'offense est aussi une question de péché. C'est-à-dire que pour ceux qui aiment la loi de Dieu, les choses qui font pécher les autres ne les font pas pécher. Ils auront la capacité de passer outre ces choses et de les contourner. Le fait de causer des pierres d'achoppement ou des offenses est important. Et c'est quelque chose que j'ai déjà mentionné dans un sermon de la fin des expiations au sujet des deux boucs. Reconnaissant qu'un bouc représente Jésus-Christ, qui est mort pour nos péchés. Mais une autre boucle représente le diable et que les mains sont imposées sur la tête de ce bouc, montrant là le rôle qu'il joue dans nos péchés, bien que nous soyons toujours libres de nos choix. Et c'est une chose que certaines femmes mondaines pourraient dire pour justifier leurs vêtements, par exemple. Elles portent des tenues légères ou trop serrées, et ils disent, « Regardez, si un homme est rempli de luxure, c'est de sa faute. Oui, c'est son choix, vous avez raison, c'est son libre arbitre. Il en sera tenu responsable. Et heureusement, il y a le sang du Christ pour le couvrir. Mais le fait que vous ayez été si indifférente et vous ayez mis une pierre d'achoppement devant votre frère est votre responsabilité. Sinon, pourquoi nos péchés auraient-ils un rôle à jouer sur la tête du bouc représentant Satan le diable? » Donc, dans Psaume 119, verset 165, parle de trébucher et de pécher. Mais ceci dit, c'est en partie parce que je suis motivé à couvrir un sujet comme celui-ci, parce que lorsque vous êtes offensé, c'est toujours une pierre d'achoppement. C'est comme si quelque chose a été jeté à vos pieds pour vous faire trébucher. Les chances que vous péchiez lorsqu'une offense est jetée à vos pieds devient plus élevée qu'elle ne l'était juste un instant plus tôt. Et tu recherches des personnes que rien ne fait trébucher. Ils sont capables d'enjamber tout cela. Nous avons la capacité, si Jésus-Christ vient en nous, lorsqu'on nous présente quelque chose qui offenserait la plupart des êtres humains sur la planète, de simplement ne pas être offensé et de passer à autre chose, et de passer à autre chose. C'est la première option. Choisissez simplement de ne pas être offensé. Il s'agit de contrôler votre esprit et de décider, « Vous savez, je ne serai pas offensé. » D'accord, ce serait bien, ce serait toujours aussi simple, mais disons que vous ne réussissez pas à faire ce choix. Alors qu'une personne vient de vous donner un coup de poing sur le nez, ou continue de dire des choses terribles au sujet de votre mère ou quoi que ce soit d'autre, vous pensez, « Bon, ceci est offensant, et je suis incapable de passer par-dessus, je suis donc offensé. » Donc, nous allons parler du deuxième outil que nous pouvons appliquer, et c'est l'outil qui consiste à simplement ignorer et passer outre. Oubliez cela et ne plus y penser, passez à autre chose. Enfin, laissez-moi vous demander, dans quel genre de monde vivrions-nous si chaque personne refusait de passer outre quelque chose qui l'a offensé? Il n'est pas nécessaire d'avoir beaucoup d'imagination, parce que de plus en plus, c'est le monde dans lequel nous vivons. Examinons quelques passages des Écritures à ce sujet. Reportez-vous à Proverbe 10, le verset 12. Et cette capacité d'ignorer les choses est recommandée par Dieu. Elle est nécessaire au bon fonctionnement du corps de Christ. Proverbe 10, verset 12. Et regardez ce qui est écrit ici. La haine excite des querelles, mais l'amour couvre toutes les fautes. Et l'amour couvre tous les péchés. Et je ne crois pas que ce soit une coïncidence si certaines des personnes les plus difficiles à offenser que je connaisse soient aussi parmi les plus aimantes. Lorsque nous avons cherché à développer dans nos cœurs et nos esprits l'amour de Jésus-Christ envers tous les hommes, il devient donc plus facile d'ignorer leurs défauts et plus facile d'ignorer leurs offenses, qu'elle soit réelle ou imaginaire. Et le fait d'ignorer l'offense nous donne le temps de découvrir qu'elle était peut-être en fait imaginaire. Il est étonnant de voir que certains de ces courriels offensants s'affairent ne pas être du tout destinés à être offensants. La personne ne sait tout simplement pas écrire des courriels décents. Elle ne comprend pas que lorsque 85% de la communication qui est non-verbale est éliminée, son message sonne mal. Quand vous lui parlez en personne, elle récupère ses 85%. Elle a l'air d'une personne décente à nouveau. Mais pensons à nos propres vies et examinons-nous. Je suis certain que je ne suis pas si conscient de moi-même qu'à chaque fois que je pèche contre Dieu, je ne me mette immédiatement à genoux. Sinon, les gens me croiseraient dans les couloirs du bureau. Ah, Smith est encore à genoux dans le corridor. Je me demande ce qu'il a fait cette fois-ci. Nous ne sommes pas si conscients de nous-mêmes. Parfois, qu'en serait-il si chaque fois Dieu refusait de traiter avec nous jusqu'à ce que, d'une manière ou d'une autre, nous comprenions? Dieu, dans sa miséricorde, ne nous montre pas à chaque personne qui vient d'être baptisée une liste de toutes les choses terribles qui sont dans son caractère et dans sa personnalité et de tout ce qu'il fait de mal. Ce serait écrasant. Qui voudrait cela? Dieu est assez gentil pour nous montrer certaines choses plus tard dans la vie. Et nous sommes alors assez humbles pour réaliser que nous avons été comme ça depuis si longtemps. Dieu est capable de passer outre et de continuer à nous aimer et de travailler avec nous. Pouvons-nous en faire autant envers les autres? Et ce sera d'autant plus important à la fin des temps. Et veuillez vous reporter maintenant à 1 Pierre 4. 1 Pierre 4. Et je suis très reconnaissant de M. Jonathan McNair dans son récent sermon dans lequel il parle très clairement des temps à venir. Ce n'était pas seulement en termes de détails prophétiques ou des choses que nous devons savoir bibliquement, mais aussi en termes d'impact dans nos vies. Que ferons-nous lorsque les services commencent à manquer? Que ferons-nous lorsque la civilisation sur laquelle nous comptons pour exister au jour le jour, dans un sens pratique, commencera à se détériorer? Et j'ai vraiment apprécié ce sermon. Quand ces temps arrivent, les gens ont tendance à se rapprocher par nécessité, non? Nous allons nous rapprocher par nécessité, surtout dans le lieu de sécurité. J'ai souvent dit, avec qui dans cette pièce ne voudriez-vous pas chambrer au lieu de sécurité? Je ne serais pas surpris que ce sera avec cette personne-là que vous allez être. Dieu veut que nous travaillions sur ces choses. Nous n'arrêterons pas d'apprendre quand nous serons dans le lieu de sécurité. Ceci dit, quand les temps seront difficiles et que le monde commencera à nous presser, nous nous approcherons de plus en plus les uns des autres. Mais vous savez, plus vous vous rapprochez de quelqu'un, plus les chances augmentent qu'une offense survienne. C'est pourquoi certaines personnes restent distantes. Elles craignent de provoquer une offense. Mais soyons francs. Plus vous vous rapprochez de quelqu'un, plus les chances d'offenser augmentent. Et comme la fin des temps s'en vient, nous devons être capables de gérer ces situations. L'apôtre Pierre écrit dans 1 Pierre 4, versets 7 et 9, 1 Pierre 4, versets 7 et 9, « La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Avant tout, ayez les uns pour les autres un ardent amour, car l'amour couvre une multitude de péchés. Exercez l'hospitalité les uns vers les autres sans murmure. » Il ne s'agit pas simplement d'idéaux ici. Il est important que nous nous imaginions dans les scénarios décrits par ces versets, dans les circonstances où ils sont les plus difficiles à mettre en pratique. Le verset 9 dit « Exercez l'hospitalité les uns vers les autres sans murmure. » C'est facile de penser « Oui, je veux être une personne hospitalière. » Et nous invitons les gens qui nous sommes les plus proches, avec lesquels nous sommes bien ensemble à l'Assemblée, et nous parlons aux personnes avec lesquelles nous sommes à l'aise. Mais si c'était ce que Dieu voulait, pourquoi prend-il la peine d'ajouter sans murmure? Je parle tracalement à M. de Simon Neville, rarement motivé à murmurer. Mais nous sommes proches, nous sommes des amis. D'autre part, je plaisante si je nommerai personne, mais quand même, il y a des gens, des fois des gens dans notre vie, dans nos familles, des frères, des sœurs en Christ, qui peuvent tomber dans cette catégorie de gens qui nous font murmurer. Pourquoi Dieu dit-il cela? Parce que c'est la véritable hospitalité. Parce que la véritable hospitalité, c'est lorsque vous pouvez faire preuve d'hospitalité, même dans des situations où, au fond, vous avez envie de murmurer. Vous savez, vous n'avez pas le même mérite devant Dieu en écrivant le courriel le plus poli, le plus respectueux que vous ayez jamais écrit, jusqu'à ce que vous soyez quelqu'un avec qui vous avez du mal à être poli et respectueux. Et c'est en partie ce que Dieu dit ici, quand il déclare que l'amour couvre une multitude de péchés. Une personne doit avoir un amour fervent les uns pour les autres. Pourquoi? Parce que votre frère va pécher contre vous. Parfois, c'est simplement une perception ou une impression. Parfois, c'est réel. La partie effrayante est qu'il n'est pas toujours facile de faire la différence. Quand ces moments arrivent, avons-nous la capacité de simplement les ignorer? Je ne veux pas revenir sur certaines écritures sur lesquelles j'ai insisté dans un autre sermon, mais si vous repassez à l'enseignement du Christ dans Matthieu 5, et dit d'aller au-delà de ce qui vous est demandé. Sommes-nous prêts à faire un effort supplémentaire envers quelqu'un qui nous a offensés, à faire 2000 à celui qui nous a demandé d'en faire un? C'est de cela qu'il s'agit ici. Alors, embrassons ce concept, disant, OK, j'ai essayé de ne pas être offensé, ça n'a pas fonctionné, donc je vais sortir mon deuxième outil, je vais ignorer une offense de cette personne, et elle me pousse à faire 1000 avec elle, d'accord, je vais en faire de mon mieux pour en faire 2, et je vais continuer à interagir avec cette personne et essayer d'oublier ou d'ignorer l'offense. Et vous savez quoi? Parce qu'aucun de nous n'est parfait. Et j'aimerais pouvoir vous dire que je suis parfait dans ce domaine, mais je ne le suis certainement pas. Je pense que Dieu m'a aidé à croître dans une certaine mesure. Une chose qui m'a aidé, que je vais partager avec vous, c'est que j'ai essayé d'inverser les rôles et d'imaginer le genre de vie que je mènerais si personne ne passait jamais outre les offenses que je leur ai causées. Je ne crois pas à un multivers, mais dans un multivers où un Wallace Smith vivrait avec les offenses qu'il a causées, où personne ne passait par-dessus, je ne voudrais pas être ce Wallace Smith. Ce serait une vie difficile. Tout ce que votre vie serait plus difficile si personne ne passait jamais outre les offenses que vous avez générées, volontairement ou accidentellement. Nous voulons certainement faire la même chose. Alors, essayez simplement d'ignorer l'offense. Bon, disons que vous avez essayé de passer outre, et que cela ne fonctionne pas. Une bonne ceinture d'outils contient plusieurs outils. Donc, nous avons essayé de ne pas être offensés, et cela n'a pas fonctionné. Et maintenant, vous essayez de passer outre, et cela ne fonctionne pas non plus. Le point suivant va sembler être pareil, mais je ne pense pas qu'il le soit. C'est pourquoi c'est un outil distinct. Le troisième outil, c'est que je vous recommande, c'est le simple pardon. Le simple pardon. Encore une fois, je parle en fonction de mon expérience personnelle. Je sais que lorsque je passe outre une offense qui m'a été faite, et lorsque je cherche activement à pardonner une offense qui m'a été faite, ce n'est pas la même chose. Pour vous, ce peut être pareil. Ce n'est pas la seule façon d'organiser ces outils. Mais pour moi, ce sont deux choses différentes. Dieu nous a donné l'outil du pardon. Et nous n'avons pas besoin de supposer le meilleur. Avez-vous déjà été coupé par quelqu'un dans le trafic et essayé de supposer le meilleur de cette personne? Ça m'est arrivé et j'ai pensé peut-être que sa femme enceinte est sur le siège en arrière et il essaie de l'amener à l'hôpital. Il est très nerveux et il ne m'a probablement pas remarqué. Je sais que c'est probablement de la fiction, une histoire amusante à me raconter dans ma tête pour reconnaître que je ne sais pas ce qui se passe dans la vie de chacun. Ça pourrait être un voleur de banque, pour autant que je cherche, j'en ai aucune idée. Peut-être que s'il est en route vers ma maison pour y mettre le feu, j'en sais rien. Et parfois, ce genre de choses m'aide à oublier, à relativiser et à avancer. Mais parfois, ça ne marche pas et je dois passer au pardon actif. C'est un outil que Dieu nous a donné. Reportez-vous à Luc 23. Reportez-vous à Luc 23, verset 34. Et nous avons le modèle parfait. Une partie de la beauté du plan de Dieu pour nous est le fait qu'il ne s'agissait pas seulement de nous donner un mode de vie. Il s'agissait que l'un d'eux condescende à venir dans ce monde et à vivre des circonstances les plus difficiles pour nous, pour que nous puissions le voir et pour que nous ayons un exemple auquel réfléchir pour toujours. Lisons au sujet de la crucifixion de Jésus-Christ. Donc, dans Luc 23, verset 34, Luc 23, verset 34, alors que Jésus était là, cloué sur un morceau de bois, comme un insecte, il dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Il se partage ses vêtements en tirant au sort. Ces gens avaient si peu d'estime pour sa souffrance que même devant lui, il tirait ses biens au sort comme un jeu. Et sa réaction à lui fut de leur tendre la main par le pardon. Pour ce qu'il faisait ne soit pas retenu contre eux, c'est extrêmement puissant. Et le monde dépeint la puissance comme étant le contraire. Et je pense que c'est une citation de Gloria Steinem. Je ne sais pas si c'est d'elle, mais c'était quelqu'un au début du mouvement de la libération des femmes qui disait « Le pouvoir ne peut pas être donné. Elle doit être seulement saisie. Vous devez prendre le pouvoir des autres. » Mais ce n'est pas la façon dont Dieu voit le pouvoir. Vous pouvez accepter ou accepter le pouvoir de Dieu dans ce choix de simplement pardonner à quelqu'un, sans exiger de pénitence de sa part, sans exiger qu'elle saute à travers toutes sortes d'obstacles. Ces gens qui ont cloué Jésus-Christ sur le bois pour ne torturer la mort, se repentiront-ils un jour? Je l'espère. Ce sera merveilleux s'ils sont ressuscités et réalisent « Tu es cet homme? Je n'arrive pas à croire que j'ai fait cela. » Ce serait fantastique. Pourtant, malgré toute la douleur qu'il éprouvait à ce moment-là, c'est le choix qu'il fit de s'assurer que ces gens-là soient pardonnés. Et je confesse que je suis humain et que je suis passé par là, et c'est facile de passer et de dire « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Mais cet autre homme, lui, il savait ce qu'il faisait. Cet homme qui m'a fait ceci, cette dame qui m'a fait cela, quand j'ai apporté ce mets au repas commun et que cette personne a dit telle chose au sujet du mets que j'avais apporté, elle a utilisé les mots exacts, sachant qu'elle me ferait du mal. Oui, cela arrive. Il y a des gens qui nous offensent et ils le savent. Franchement, il y a des gens qui aiment ça. Si certains d'entre nous sont honnêtes avec eux-mêmes, il y a des moments où nous sommes la personne qui aime piquer les autres au vif. Mais en revenant derrière, laissez-moi vous dire que ce n'est pas une excuse. Le Christ nous a aimés avant que nous l'aimions, alors que nous étions encore des pécheurs. Et si choisir de pardonner est vraiment une pierre d'achoppement, alors prenez l'exemple d'Étienne. De son martyre et de l'occasion qu'il a eue de pardonner, de vivre selon Luc 23. Étienne fut lapidé à mort par des gens qui savaient ce qu'il faisait. Ils étaient en colère parce qu'ils les avaient accusés de péché devant Dieu, et ces gens s'efforçaient de le faire taire parce que tout ce qu'il disait était vrai. Pourtant, il a quand même prié Dieu avant de mourir et lui a demandé de ne pas retenir leur choix contre eux. Nous devrions être un peuple qui pardonne. Cela devrait faire partie de nos options par défaut. Pardonner simplement quelqu'un et de ne pas retenir ses crimes contre lui. Si nous allons dans Matthieu 18, nous avons ce fameux récit, n'est-ce pas? Matthieu 18. Et je ne veux pas calomnier Pierre ici. Il ne se vantait peut-être pas quand il a dit cela, mais c'est parfois l'impression que nous avons. Et j'espère aussi faire partie de la résurrection et de pouvoir le rencontrer et de parler avec lui. Et peut-être dira-t-il, « Oh, vous m'avez fait du tort, Smith. Je n'étais pas ce genre d'homme. » Et dans Matthieu 18, verset 21, il est écrit, « Alors Pierre s'approcha de lui et dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Serai-je jusqu'à 7 fois? » C'est facile de penser que 7 fois, ce n'est pas grand-chose. Et en même temps, j'ai connu des gens pour qui une seule grosse offense était tout ce qu'il fallait pour qu'ils ne parlent plus jamais à quelqu'un d'autre. En fait, de par le passé, dans la parenté, je me souviens d'avoir assisté à des enterrements et d'avoir su qu'un tel ne parlait pas à un tel et de ne pas m'y attendre parce qu'il ne s'était pas parlé depuis toutes ces années et qu'il ne le ferait pas. Pierre avait peut-être des raisons de penser « Oh, je vais vraiment l'impressionner, il va aimer ça, et nous aimons tous le chiffre 7. » Alors Pierre dit « Jusqu'à 7 fois? » Et Jésus lui dit « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Pardonner pourrait être notre mode de vie, mode d'opération par défaut. Cela ne veut pas dire que vous devez rentrer chez vous et le faire un grand tableau. Bien, voici 490 carreaux, et c'est le numéro 1, monsieur. Ce serait vraiment effrayant de rendre visite à quelqu'un et qui vous amène dans une salle de pardon, où le mur est rempli d'affiches, où il y a des noms et 490 carreaux sous chacun de ces noms-là, et que les carreaux soient cochés à différents niveaux. Vous sortiriez lentement d'une pièce comme celle-là, mais le Christ n'a pas fixé une limite réelle. Ce sera le pire travail de comptabilité qui soit. Et vous ne devez pas garder le compte des péchés de ce frère pour savoir quand vous allez arrêter de lui pardonner. car qui voudra même compter jusqu'à 490 fois? Tous les chiffres 7 dans cette réponse du Christ sont une sorte d'image de la complétude de la perfection. Nous devons être prêts à aller jusqu'au bout, car Dieu le Père et Jésus-Christ sont prêts à aller jusqu'au bout pour nous pardonner. Ils ne se retiennent pas. Voudrions-nous que le Christ nous voie nous retenir de pardonner à notre frère? Alors que le lendemain matin, quand cet homme ou cette femme se met à genoux pour prier, Dieu a l'intention d'écouter sa prière. Dieu aime toujours cette personne et s'occupe d'elle. Qu'est-ce que cela fait à Dieu de nous regarder et de voir en nous un esprit différent? Je comprends que ce soit difficile de dire « Hey, arrêtez de ne pas être à la hauteur de ce que Dieu représente. » Et je ne dis pas que c'est facile non plus. Ce n'est certainement pas facile pour moi. Mais cela ne change pas le fait que c'est la norme qui nous est imposée à tous. Donc, c'est une option, le pardon. Il suffit de pardonner à la personne et de passer à autre chose. Et en même temps, parfois, c'est trop difficile. Pas parce que nous ne sommes pas à la hauteur, mais parce que cette situation semble nécessiter plus. Peut-être avons-nous besoin d'aide pour pardonner. Ou peut-être que c'est le genre de situation où il devrait vraiment y avoir quelque chose de plus. Peut-être nous estimons qu'une restitution soit nécessaire. Ou que nous avons simplement du mal à supporter la situation. Quel est l'autre outil que nous avons à notre disposition pour faire face à une offense? C'est de demander conseil à un ministre. Nous avons de nombreuses bénédictions dans l'Église de Dieu. Nous aimerions avoir plus d'hommes sur le terrain. M. Haynes s'empresserait de nous encourager tous à prier réellement que Dieu envoie des ouvriers dans la moisson. Une des choses que j'aime de M. Haynes, c'est qu'il nous dit tous, qu'il nous tient tous responsables de faire les choses que la Bible nous dit de faire. Donc, prions-nous que Dieu envoie plus d'ouvriers dans la moisson. Mais cela dit, nous n'avons pas autant d'excuses que nos frères et sœurs du premier siècle ou de nombreux autres siècles passés, parce que même si nous n'avons pas de ministre tout proche, nous avons des téléphones, nous avons des textos, nous avons des courriels, des voitures. C'est incroyable l'accès que nous avons aux ressources. Demander conseil au ministère. C'est pour cela qu'ils sont là, pour nous servir, pour nous guider, pour nous aider à trouver les moyens à surmonter l'obstacle de l'offense. Reportez-vous à Philippiens 4. Comment cette situation fut-elle portée à l'attention de l'apôtre Paul? Je ne sais pas. Est-ce que quelqu'un lui a demandé conseil à ce sujet? C'est possible. Peut-être que les individus eux-mêmes l'ont fait. Mais quelqu'un est allé voir le ministre? Je peux vous garantir que cela n'est pas venu à son attention lors d'une rencontre Zoom. Dans Philippiens 4, versets 2 à 4, l'apôtre Paul écrit « J'exhorte Évodie et j'exhorte Chétiche à être d'un même sentiment dans le Seigneur. Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider, elles qui ont combattu pour l'Évangile avec moi et avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre, dont les noms sont dans le livre de vie. Et réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. » Le voilà qui engage ses assistants là-dedans à aider ces gens à travailler ensemble, à être capables d'avoir le même esprit, alors qu'ils sont si disparates à ce moment, qu'ils sont si divisés. Aux États-Unis particulièrement, nous sommes formés pour être des individualistes robustes qui ne demandent pas d'aide. C'est incroyable. Je me souviens d'une remarque de l'un de nos ministres, M. David Burson, que j'ai finalement aussi constaté par moi-même dans mon ministère. C'est « Mais si vous avez connu M. David Burson, vous savez que c'est ce genre de commentaire. Et vous tous les hommes qui ne veulent pas aller voir le ministère pour recevoir des conseils au sujet de votre mariage défaillant, arrêtez de prétendre qu'être un homme signifie ne pas aller chercher d'aide auprès du ministère. Je sais que vous avez peur que les gens découvrent que votre mariage bat de l'aile. Ne vous inquiétez pas, nous le savons déjà. » Nous le voyons tous, allez simplement chercher de l'aide Et il disait cela parce que souvent, en tant qu'homme, c'est difficile d'aller chercher de l'aide. Parfois, vous avez l'impression d'échouer si vous en demandez, n'est-ce pas? Qui veut aller voir un autre homme et admettre ne pas réussir dans quelque chose? Mais même à la salle de sport, les hommes ont besoin d'un assureur lorsqu'ils font certains exercices. Et vous savez, il y a une raison pour cela. C'est parce que nous avons parfois besoin d'aide. Donc Dieu nous a donné l'Église parce que nous avons besoin d'aide parfois. Il nous a donné un ministère. Et nous dit, regardez, je vais travailler à travers cette personne. Oui, je sais que ce ministre est imparfait. Comme vous l'êtes tous. Pourtant, j'ai veillé à ce qu'il soit ordonné, qu'il reçoive l'imposition des mains, et j'ai fait de lui votre berger. Laissez-moi travailler à travers lui pour vous aider. Vous connaissez la vieille blague où quelqu'un veut être sauvé d'une inondation, et il prie à Dieu, et les gens viennent, et ils lui lancent plein de choses, et ils disent, « Voici un radeau de sauvetage, sautez dedans. Voici un gilet de sauvetage, mettez-le. » Et la personne répond, « Non, j'attends que Dieu me sauve. » Et après qu'il soit noyé, Dieu dit, « Eh bien, je vous ai envoyé les radeaux et le gilet de sauvetage. Pourquoi n'avez-vous rien fait? » Dieu répond, « Je comprends que vous me priez pour recevoir ces conseils. C'est merveilleux. Mais vous savez que je vous ai donné un pasteur, n'est-ce pas? Je vous ai donné un berger. En fait, le mot grec pour pasteur est le même mot grec que pour berger. Je vous ai donné un berger. » Nous devons nous laisser guider par notre berger physique. Parfois, lorsqu'on est offensé, il est très tentant d'aller voir une personne compatissante qui parlera pour vous et soutiendra votre point de vue en rétorquant « Je sais, c'est ce qu'un tel fait tout le temps. En fait, voici ce qu'il m'a fait une fois. » C'est le genre de conversation que notre moi charnel désire avoir. Une partie du travail d'un pasteur consiste à aller vers Dieu et à demander à recevoir l'impartialité nécessaire pour pouvoir vraiment servir les gens de la bonne manière. Donc, si ces autres étapes ne fonctionnent pas, et si nous sommes sincères et cherchons vraiment de l'aide, nous pouvons aller voir notre pasteur. C'est un peu comme élever des enfants. Il y a certaines réalités que vous voyez chez les enfants qui représentent en fait l'humanité en général. Nous avons élevé 4 enfants. Il n'y en a qu'un seul ici aujourd'hui et les autres sont au camp des jeunes. Donc, je vous assure que ce sont les 3 autres qui présentent parfois des difficultés, pas celui qui me nourrit actuellement. Mais, vous savez, quand cet enfant vient à vous, ce n'est pas vraiment en disant « Père, Père ». En fait, j'ai des garçons, donc ça devrait être « Père, aide-moi à vivre en paix avec mon frère. Je veux être un vrai frère pour lui et lui pour moi. Si je me trompe, je vous prie, Père, de me corriger. Mais si c'est lui, aidez-moi à être sincère et humble et à lui laisser de la place pour changer. Mais c'est plutôt « Papa, un tel a fait ça et il saigne. Wow, qu'est-ce qui s'est passé? » Puis vous parlez à l'autre enfant et il dit, « Eh bien, oui, j'ai fait ça, mais c'est après qu'il a mis feu à tous mes jouets. » Ils ne disent pas toujours l'autre partie de l'histoire. Et je me souviens qu'une fois l'un de nos fils est venu me voir pour me dire qu'un de ses frères avait fait une telle chose. Ou avait fait telle chose. « Papa, Benjamin fait ceci et cela. » Et je me suis dit, « Bon, ça va être une de ces histoires, j'en suis sûr. » Donc, je suis allé voir Benjamin et je lui ai dit, « Hey, un tel me dit que telle chose se passe. Qu'arrive-t-il? » Et il répondit, « Eh bien, j'ai fait ceci et j'ai fait cela. » Il a complètement roué, ce qui n'arrive pas toujours. Physiquement, lorsque vous allez voir votre père, vous voulez vraiment résoudre les choses. Et comme le Christ le dit, quand il s'agit de se réconcilier, ce n'est pas pour mettre l'autre personne en difficulté, mais pour chercher de l'aide. Non pas « S'il te plaît, répare mon frère », bien que ce soit le résultat recherché, mais « S'il te plaît, aide-moi ». Je veux vous encourager à considérer l'offense comme un fardeau que nous devons supporter. Parfois, nous demandons ce que nous pouvons faire, et il y a des outils que nous pouvons utiliser, et c'est pourquoi nous en parlons. Donc, considérez le ministère comme une option. Considérez que vous êtes une brebis qui veut être dirigée, guidée. Si ces autres choses ne fonctionnent pas, envisagez de parler au ministère et de lui demander conseil. Et finalement, allons à Matthieu 18. Le principe ici est d'aller vers votre frère, et parfois ce sera effectivement le conseil que votre ministre vous donnera. Si vous êtes un enfant, vous savez à quel point il est insatisfaisant d'aller voir vos parents et que, alors que vous voulez causer des problèmes à votre frère, votre parent vous dise « tu dois aller parler à ton frère ». Ce n'est pas ce que vous vouliez, vous auriez préféré qu'il y ait des éclairs tombent du ciel. « Papa, tu es vraiment trop raisonnable et beau. Tu n'apportes pas la pluie le tonnerre. Alors, allez voir votre frère. » Mais quand vous ferez cela, souvenez-vous du but. Matthieu 18 est un processus. Je le répète, c'est un processus. Il montre comment les choses peuvent dégénérer. J'aimerais apporter votre attention ici à un autre aspect lié à Matthieu 18. Donc, dans Matthieu 18, verset 15, on voit ici le processus qui s'engage. « Si ton frère a péché contre toi, va et reprends-le seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. » À nouveau, remarquez le but, c'est de gagner son frère. Pas nécessairement être déclaré juste aux yeux du monde entier, mais de gagner votre frère, de guérir une brèche. Remarquez aussi qu'il est dit « va et reprends-le seul à seul ». Ce n'est pas une opportunité de salir la réputation de quelqu'un. Ce n'est pas le moment de vous liguer contre quelqu'un. Enfin, vous pourriez découvrir en discutant avec lui que c'est vous qui êtes en faute. C'est merveilleux dans ce cas-là de ne pas avoir d'auditoire. Mais au verset 16, la situation s'aggrave. Il dit, « Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de deux ou trois témoins. » Maintenant, cela ne signifie pas d'aller chercher vos amis. C'est le moment idéal pour faire appel à des personnes impartiales de la congrégation. C'est peut-être un bon moment pour discuter avec votre ministre, à savoir qui seraient les personnes appropriées pour être témoins. C'est peut-être un diacre, c'est peut-être quelqu'un impartial, qui peut réellement aider à juger la situation, et non vos amis qui se ligueraient avec vous contre votre frère. Disons que cela ne marche toujours pas. Je parlerai de ce qui peut se passer, mais terminons ici au verset 17. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Maintenant, l'Église ne signifie pas aux gens de l'Église. Il est facile de conclure cela, mais le contexte rend absolument clair que ce n'est absolument pas de cela qu'il s'agit. Il y en a qui aiment procéder ainsi, mais heureusement, je n'en connais aucun dans l'Église du vivant, mais j'ai vu des gens décider d'aller sur Internet ou sur des réseaux sociaux et de publier la chose à tous les individus de l'Église. Voici ce que cette personne a fait et voici comment elle m'a fait du tort. Pourtant, le contexte montre clairement qu'il ne s'agit pas de cela. Et verset 18 ici dit, « Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. » Il ne parle pas du pouvoir que nous avons tous individuellement. Je suis désolé, mais vous et moi n'avons pas le pouvoir, en tant que chrétiens individuels, de lier et de délier les choses sur la terre ou dans le ciel. Dieu ne nous a pas accordé l'autorité d'être ceux par qui il communique des choses qu'il a liées dans le ciel. Et versets 19 et 20, « Je vous dis encore, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle lui sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Et les gens pensent souvent à cela en se disant, « Cela signifie que chaque fois que deux d'entre nous sommes ensemble, le Christ est là aussi. » Laissez-moi vous poser une petite question. Si vous êtes seul, perdu et effrayé, est-ce que le Christ est avec vous? Oui! Il n'est pas question de cela ici. Il ne dit pas, « Oh, je suis désolé que vous soyez perdu, que vous ayez eu un accident de voiture. Si seulement il y avait une autre personne avec vous, je pourrais être réuni avec vous à mon nom. Mais vous êtes seul, et j'espère que vous arriverez à rentrer chez vous. » Non, le Christ parle ici du genre de discussion qu'ont les ministres quand ils doivent prendre des décisions difficiles. Les ministres que j'ai eu le privilège de connaître, M. Meredith, M. Weston et les autres, que Dieu a appelés et ordonnés pour aider à diriger l'Église, demandent des conseils, comme si cela fait partie de leur ADN. Christ parle de faire les choses avec autorité, de lier des choses sur la terre. Cela ne signifie pas que n'importe quel deux chrétiens, lorsqu'ils se réunissent ensemble pour dîner et font une étude biblique, pourraient délier ou pourraient lier des choses pour le corps du Christ, et que d'autres chrétiens se réunissant dans un autre quartier de la ville feraient la même chose et lieraient quelque chose complètement différent pour le corps du Christ. C'est une mauvaise application des Écritures. Lorsqu'il est écrit de le dire à l'Église, cela signifie d'aller vers ceux qui ont la responsabilité de l'Église, parce qu'il peut y avoir une décision à prendre qui aura un impact sur l'ensemble du corps de Christ et sur le reste de la vie de cette personne. En fait, le verset 17 dit « S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église, et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi un païen et un publicain. » Et avant que nous passions au dernier point, je veux conclure celui-ci soulignant que si nous suivons les instructions de Matthieu 18, si nous allons vers notre frère, nous ne devons pas le voir comme un processus irréversible, comme si la première fois que vous le rencontrez, c'est moi ou c'est lui qui quitte l'Église. Non, ce n'est pas le cas. Nous pouvons aller voir notre frère et nous disons que cela ne se passe pas bien, disons que notre frère nous dit simplement « Je suis désolé, mais je ne comprends pas pourquoi vous pensez cela, et c'est littéralement le courriel le plus poli que j'ai jamais écrit. Je sais que ces mots semblent irrespectueux, mais je l'ai dit à ma mère ce matin. Donc, je suis désolé, vous avez complètement tort. Oui, j'appelle ma mère sac à ordures tous les matins, donc je suis désolé que vous soyez offensé. Bon, d'être allé voir votre frère ne s'est pas bien passé. Est-ce que cela veut dire, bien, j'ai commencé à utiliser Matthieu 18, alors maintenant, je dois aller chercher des témoins. Laissez-moi vous encourager. Non, vous n'avez pas besoin de faire cela. Nous pouvons revenir en arrière et réessayer certains autres outils. Peut-être pouvons-nous réellement pardonner, parce que c'est un processus sérieux. Chaque étape peut être une opportunité de réévaluer. Est-ce que cette situation doit vraiment aller de l'avant? Nous avons d'autres outils. Et si nous utilisons Matthieu 18, gardons quand même ces autres outils d'esprit. Peut-être que certaines étapes ou réponses sont une opportunité de réévaluer la manière de s'y prendre. Donc, enfin, comme dernier point, j'aimerais dire ceci. Je me suis demandé si je n'aurais pas dû commencer par ce point-ci, mais je me suis donné la permission de le garder pour la fin, parce que si vous regardez les 7 voies du succès, la dernière est en fait celle qui devrait être la première, non? Soit de chercher Dieu. Et c'est le désir de Dieu pour nous, le plan de Dieu et la volonté de Dieu que nous devrions le chercher. Et cela affecte l'utilisation de tous les autres outils. Donc, le dernier outil est la prière. Priez à ce sujet. Combien d'entre nous confient leurs offenses à Dieu et lui demandent d'arranger correctement leur passé à cet égard? En fait, reportons-nous à un autre passage avant de conclure. Dans Proverbe 25. Reportons-nous à Proverbe 25. Il est aussi cité par l'apôtre Paul dans Romains 12. Dans Proverbe 25, versets 21-22. Dans Proverbe 25, versets 21-22. Il nous est dit, « Si ton ennemi a faim, donne-lui du pain à manger. S'il a soif, donne-lui de l'eau à boire. Car ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête, et l'Éternel te récompensera. » Maintenant, laissez-moi souligner lorsque nous sommes offensés, parfois le verset 22 semble génial. « Oh, oh, amasser des charbons ardents sur sa tête. J'ai hâte de faire cela. » Mais la façon de le faire, c'est vraiment d'être gentil avec eux et de répondre à leurs besoins. Et maintenant, voici un vrai moment de confession. Je me souviens, lorsque ma famille et moi avons commencé à fréquenter l'Église mondiale de Dieu, j'ai vu quelqu'un dans une autre congrégation locale, et c'était quelqu'un qui m'avait vraiment offensé dans le passé. J'étais relativement jeune quand cela s'était produit, et à l'époque, je m'étais senti justifié d'être offensé. Il était, je dirais, en train d'induire en erreur des jeunes gens au sujet du sabbat et d'autres choses. Je me souviens d'avoir été vraiment dérangé par cela à l'époque. Puis je les ai revus se présentant aux assemblées de l'Église mondiale de Dieu. Ils étaient alors mariés, ils avaient des enfants, et je n'en revenais pas de voir à quel point cela me bouleversait. Tout à coup, chaque ressentiment, chaque chose horrible que j'avais pensée à propos de cette personne me revenait à l'esprit, comme si ces choses qu'elle avait faites venaient tout juste de se produire. Et je me souviens avoir eu du mal à gérer cela. Puis je me souviens du conseil qui m'a été donné dans un sermon, et j'aimerais me souvenir du titre du sermon. Mais je vous encourage tout de même à lire l'article de M. Weston intitulé « Aimez votre prochain » paru dans le journal de janvier-février 2022, au sujet du genre d'attitude que nous devrions avoir. Il s'agit de ce désir de mieux penser au sujet des autres et d'aimer notre prochain par nos actions et nos choix. Et à cette époque, cet article n'existait pas. Mais je me souviens d'avoir entendu quelque chose dans un sermon à propos de demander à Dieu de bonnes choses pour ces personnes qui nous ont offensés, et non pas de prier « Dieu, bénis cette personne en l'aidant à surmonter son idiotie, ses stupidités, son caractère haineux et ses dispositions sataniques. » Non, non, mais de prier littéralement pour le genre de journée qu'il aura, sachant qu'il a aussi un travail. S'il vous plaît, Dieu, bénis-le dans son travail et avec ses responsabilités. C'est difficile de porter certains fardeaux. C'est difficile pour moi dans mon travail. S'il te plaît, bénis cet individu dans son travail. Il est marié et il a des enfants. S'il te plaît, aide-le à être un bon parent, un bon mari. Aide-moi, s'il te plaît, à lui pardonner. Priez sincèrement pour cette personne, comme si vous l'aimiez vraiment. Et ne laissez pas les choses négatives se glisser dans vos pensées. C'est ce que nous sommes encouragés de faire. Et laissez-moi vous dire quelque chose. Je n'ai pas toujours agi ainsi. C'est une sorte d'amour que Dieu attend de nous, mais qui ne vient pas naturellement. J'avoue donc que cela ne me vient pas toujours aussi rapidement qu'il le devrait. Parfois, je dois le redécouvrir. Mais je dirais, quand j'ai prié ainsi, je suis reconnaissant de ce que cela a fait pour mon attitude. Et je suis reconnaissant de la façon dont ce genre de prière, sur plusieurs jours, a réaligné mes pensées au sujet de cette personne et comment mes muscles spirituels ont été renforcés pour supporter quelque chose d'offensant. Proverbe 25, versets 21 et 22 est un bon conseil. Et donc, pour conclure, permettez-moi de souligner, beaucoup d'entre vous sont probablement familiers avec Jean 13, versets 34 et 35, et l'affirmation où Jésus-Christ dit que l'un des signes par lequel les gens reconnaîtront à qui nous et qui nous fera savoir que nous sommes ses disciples et que nous nous aimions les uns les autres. Eh bien, si les paroles de Jésus-Christ sont vraies, il doit s'agir d'une sorte d'amour spécial, non? Parce que je connais beaucoup de gens dans le monde qui s'aiment, et ils ne sont pas des disciples du Christ. Je connais des gens qui ne sont désintéressés envers les autres, et qui ne sont pas des disciples de Christ. Je connais des gens qui traversent de grandes souffrances pour le bien d'autrui, et qui ne sont pas des disciples du Christ. Si l'amour mutuel est vraiment un signe pour les autres qu'il s'agit du corps de Jésus-Christ, que ceux qui ont été pardonnés et embrassés par l'Éternel Dieu, qui les élèvera dans ce royaume pour être avec lui pour toujours, sur un tout autre plan d'existence, si ce sont ces personnes, alors l'amour que nous devons montrer doit être surnaturel. Ce doit être quelque chose que les gens ne voient pas ailleurs. Ce doit être l'amour même du Christ. Et alors que nous avons été offensés, que ce soit par un ami, un frère, une sœur, un membre de la famille, un collègue de travail, un ministre. Et alors que nous avons été offensés, les yeux de Dieu se tournent vers nous. Parce que c'est le moment de vérité où nous montrons à Dieu si nous sommes capables du genre d'amour qui est le signe montrant aux autres que le Christ vit vraiment en nous. Puissions-nous tous réussir ce test.